Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'amour sur les ondes de CFM. Ce soir, j'accueille Vibke qui vous parle de son amour pour la vie, pour les hommes qu'elle a rencontrés, pour ses enfants et pour l'Afrique. Vous écoutez CFM, c'est Parlez-moi d'amour.
Bonsoir.
Donc ce joli prénom, Vibke, si tu veux nous expliquer son origine. Et merci d'être venu ce soir nous parler d'amour, bien sûr, sur les ondes de CFM. Alors un prénom aussi joli qui nous vient, je crois, d'Allemagne. Mais plus précisément
des îles de Frise que personne ne connaît, parce que je suis une fille des îles, blonde aux yeux bleus, et ça se voit. Que je suis des îles, donc les îles de Frise qui se trouvent dans la mer du Nord, au nord de l'Allemagne, et Vibke vient du Scandinave et veut dire guerrière et soleil, mais ça veut aussi dire petite femme en flamand.
Donc tu nais dans le nord, de l'Allemagne, et tu aimes dire une jolie expression dont tu m'as fait part hors antenne, que tu considères être née...
Je suis une erreur de cigogne. J'aime la chaleur. Et je suis née dans le nord de l'Allemagne où il fait quand même un peu gris, humide et surtout très froid l'hiver.
Ça, ce sont donc tes racines, là où tu nais. Et ensuite, petit à petit, donc, ta vie se passe là-bas, à 15 ans, on te demande d'apprendre le français, tu n'as pas trop envie, et donc on va t'envoyer en France, dans une famille un peu particulière, où tu vas découvrir un petit peu une nouvelle façon d'être.
Je déboule du jour au lendemain dans une famille pieds noirs de Marseille. Et là, un nouveau monde s'ouvre à moi. Je ne connaissais pas les repas du dimanche à 35. Et surtout, j'ai appris le français avec l'accent allemand pieds noirs de Marseille.
Et ça, c'est particulier. Et là, au moment du départ, du retour donc chez toi, il va se passer un petit incident qui va être le début d'une jolie histoire.
Donc, la famille d'accueil me dit au revoir avec les mouchoirs, tout, pour que je prenne l'avion. Et tout le monde est assis dans l'avion et l'avion n'est jamais parti. Donc, tous les passagers sont débarqués, on dort à l'hôtel. Et le lendemain, c'est enfin le départ, sauf que mes parents n'ont jamais pu venir me chercher le lendemain, et c'est ma tante qui m'a mis dans le train. Et là, dans le train, j'ai rencontré trois jeunes Français qui partaient en Scandinavie. Et comme on fait à 15 ans, on a changé nos adresses. Donc, à leur retour de Scandinavie, un mois après, ils se sont arrêtés chez mes parents pour dire bonjour. Et ils sont restés pendant 3 semaines. Donc c'était le début d'histoire d'amour avec Bruno, l'un d'eux.
Est-ce que tu tombes amoureuse de suite, Bruno? Oui. Tu as 15 ans, c'est donc un premier amour, on peut dire.
Premier grand amour de 15 ans et le coup de foudre. Et à 15 ans, on est prêt à tout pour être avec son grand amour. Donc Bruno, de son côté, pareil. Et il décide de venir s'installer en Allemagne, puisque lui, il est majeur. Il vient travailler pendant 6 mois. Ensuite, il est obligé de repartir à Paris parce que ses parents menacent de couper tous les vivres. La réalité nous rappelle. Et il repart. Et moi, j'ai commencé un apprentissage. Et tous les week-ends, je prends le train, 12 heures de train, pour faire Osnabrück-Paris. Paris, Osnabrück, pour être à nouveau au boulot le lundi matin. Donc notre histoire se poursuit jusqu'à mes 17 ans. On est en 77 à Paris et je décide de venir m'installer à Paris. Mais avant tout, alors je commence à suivre une scolarité où 3 mois, c'est tellement en contradiction du système scolaire allemand que j'arrête tout et je décide de passer mon brevet en candidat libre pour pouvoir accéder à un boulot, une formation, n'importe quoi. Donc je vis avec Bruno, je passe mon diplôme, nous nous marions à 18 ans pour que je puisse avoir les papiers pour pouvoir rester en France. Et à 19 ans, naît notre premier fils, Maël. Et nous décidons de nous installer dans le sud-ouest, puisque Paris, c'est décidément pas pour moi, il fait trop froid.
Toujours encore. Déjà, tu es descendu un petit peu du Grand Nord, la France, Paris, mais qui reste le Nord, donc le Sud, le Lot. Tu me dis, oui, vous faites le Tour de France, enfin, une partie en stop, et là, vous avez des liens, des amitiés qui se créent dans le Lot.
Et on s'installe dans le Lot pour rejoindre nos amis qui sont ici. Et on travaille dans le coin jusqu'à la naissance de mon deuxième fils, Flo. Et à sa naissance, nous repartons nous installer à Toulouse, un peu plus au sud, pour que je puisse suivre mes études.
Juste une petite question, parce que quand tu pars comme ça, tu es donc mineur en fait, hein, quand tu décides d'aller rejoindre Bruno à Paris, ça a été facile si tu veux le dire rapidement, avec ta famille, ils ont accepté ce départ, ça a été bien vécu ou...
Bien vécu, c'est... En fait, je me suis aperçue 40 ans plus tard, ou 40 ans, 30 ans plus tard, que mon père n'avait jamais digéré la chose, mais il a quand même accepté de me déclarer majeure à l'époque.
Donc tu ne pars pas, en fait, tu n'as pas le choix à faire, tu ne pars pas fâchée avec ta famille, tu restes en lien, il accepte quelque part.
Oui, oui, ils acceptent et le lien n'a jamais été rompu, jamais, jamais. Donc j'ai toujours maintenu les relations avec toute ma famille.
D'accord.
Qui est restée en Allemagne. Thank you.
Donc en fait, là, tu parlais de ton deuxième enfant, donc Flo, tu travailles à Toulouse maintenant, tu es éducatrice spécialisée, enfin à cette époque, tu fais... Et là, vous allez vous séparer.
Oui, c'est le divorce. Et je m'installe seule avec mes enfants, je travaille. Et je continue à vivre avec eux pendant 4 ans, toute seule. Jusqu'à ce que je rencontre, par un concours de circonstances, bien que je le connaissais déjà, mon deuxième mari. Sa maison avait brûlé et je l'ai invité à venir habiter chez moi avec son petit garçon qui avait l'âge de mon deuxième fils pour qu'il soit moins traumatisé et dans un environnement plus sécurisant. Et vivant ensemble, hop, les choses s'installent.
Tranquillement. Alors là, en revanche, c'est pas le coup de foudre, hein, cette fois-ci. Cette deuxième histoire, c'est plutôt une histoire qui se fait comme ça, de fait. Vous appréciez mutuellement, mais c'est pas le coup de foudre, la passion.
C'est une histoire d'amour tranquille. Ploum ploum. Voilà. Bien que la vie commune n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais les choses se sont installées d'une manière tranquille.
Et tu te maries quand même, hein, encore une fois, parce que tu me disais hors antenne, oui, moi je me marie à chaque fois, bon, mais avec des raisons qui ne sont pas forcément les raisons d'engagement, qui sont des raisons assez un peu rationnelles.
Oui, c'est la vie. À l'époque, j'étais allemande et pour pouvoir travailler dans la fonction publique française, j'avais besoin d'avoir la nationalité française, donc de passer par le mariage pour faciliter les choses.
Donc, le nouveau mariage. Ah oui, tu me disais aussi, je te disais, tu as une motivation comme ça à te marier à chaque fois. Bon, là, il y a un peu un côté pratique, on va dire. Aussi, tu me disais que tu aimais bien changer de nom.
Oui, j'ai toujours aimé. J'aime beaucoup mon prénom qui est vraiment, qui me décrit, qui est ce que je suis. Mon nom de famille a beaucoup moins d'importance. Après, il y a une chose importante qui intervient, maintenant, en y réfléchissant. Pour moi, je suis arrivée en France en 77. Il a été difficile d'être allemande. Et j'ai un prénom qui désigne tout de suite mes origines. Mais je ne voulais pas que mon nom de famille en rajoute. Donc j'avais l'impression, je crois, de pouvoir brouiller les pistes un petit peu.
Et donc, avec cet homme-là, donc, tu as également deux autres enfants. Et vous vivez 10 ans, comme ça, de vie commune.
Oui, et le travail, les enfants, l'éducation, et au bout de 10 ans, je suis fatiguée de tout ça, et je décide de vivre seule avec mes enfants.
Donc là, en fait, à nouveau, tu te sépares, et de choix, puisqu'à chaque fois, tu c'est toi qui quitte et qui décide d'arrêter. Et tu vis donc avec seul avec tes enfants. Mais tu disais aussi que tu es capable et bien de vivre seul, et que pour toi, c'est aussi des périodes de vie assez essentielles où tu peux te retrouver.
Moi, j'ai besoin de ces périodes-là, puisque c'est là où je reprends contact avec ce que je suis à l'intérieur de moi, avec mon noyau, et je refais la paix. Je ne m'éparpille plus, je reviens au centre.
Donc après cette période seule, hein, pendant 4 ans, presque 4 ans, là, il va se passer quelque chose vraiment qui va bouleverser ta vie, pour le coup, une histoire très forte. Voilà, la grande histoire.
Lors d'un festival à Cahors, on me demande d'accueillir des gens, puisque j'ai la place dans ma maison, et on me demande d'accueillir la cuisinière que je devais aller chercher le soir à la fin du service. Je vais la chercher, je me pointe au resté, et il s'avère que la cuisinière était un cuisinier charmant, Saïdo, qui, bon, on commence à discuter beaucoup de l'Afrique, de nous, et tout ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il repart, puisque c'est la fin du festival. Et très vite, on se retrouve ensemble pour discuter, pour faire des projets, pour finalement se dire, ben, on a envie d'être ensemble. Saïdou étant sans papier, on a décidé de se marier à Bamako pour qu'il puisse obtenir son visa pour revenir, pour qu'on puisse être ensemble.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
C'est pas une démarche anodine parce que, bon, déjà, tu vas découvrir l'Afrique. Je n'y étais jamais allée, bon, déjà. Ensuite, avec cet homme, donc un mariage encore un. Cette fois-ci, c'est comme si la vie, un peu comme un retour. Le mariage d'avant, c'était pour, quelque part, ta nationalité française, toi qui es allemande au départ. Et là, finalement, tu vas dire, bon, il y a un aspect pratique dans le mariage, même s'il y a l'amour derrière. Et il y a aussi une... conversion aussi, tu te convertis à une religion, mais par choix, hein, par...
Plus tard, beaucoup plus tard.
Ah, plus tard, d'accord.
Beaucoup plus tard. Parce que on ne parle pas de religion, puisque au départ, Saïdou n'est absolument pas là-dedans. Donc, il y a d'abord cette période où pendant 11 mois, où il ne peut pas revenir en France, je fais des allers-retours entre la France, mon boulot, mes enfants et Bamako, et je découvre l'Afrique, dont je tombe aussi amoureux que de mon mari. Mais j'ai pu m'apercevoir aussi que j'aimais Saïdou et j'aimais l'Afrique, mais l'un n'avait pas forcément à voir avec l'autre. Et ça, c'était aussi une découverte. J'aime l'Afrique pour l'Afrique. Et j'aime Saïdou parce qu'il est Saïdou et non pas parce qu'il est africain. C'est très important pour moi. Donc pendant 11 mois, je fais les allers-retours et au bout de 11 mois, il obtient enfin les papiers pour venir nous rejoindre ici et pour qu'on puisse démarrer notre vie commune au quotidien. Et petit à petit, je me rends compte qu'il boit, qu'il a un gros souci d'alcool que je ne voyais pas lors de mes visites parce que je pense que je n'avais pas envie de voir. Et très vite, ça devient un gros problème, et pour moi, pour mes enfants, et aussi pour lui. Et devant l'alternative où tu te soignes, où tu t'en vas, il a fait le choix de rentrer en cure pendant 10 jours, et de faire 10 jours de cure avec des grandes souffrances. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool, jusqu'à aujourd'hui.
Et donc après, vous continuez donc de vivre ensemble pendant plusieurs années en France. Hein, vous vivez en France tous les deux, même si tu m'as dit que tu as, pour le coup, avec ton amour donc, de l'Afrique, tu achètes aussi une maison au Mali parce que tu as plaisir à y aller pour cet amour que tu as pour ce pays.
On passe beaucoup de temps à faire des allers-retours, à aller chercher un bel artisanat, à être au Mali et entouré aussi des amis là-bas. Donc avec l'idée de créer aussi une maison d'hôte à Bamako pour accueillir les amis, leur faire connaître, partager cet amour-là de l'Afrique. C'était le projet de départ, c'était ça, pouvoir accueillir.
Se faire pour diverses raisons.
En raison des événements qui sont arrivés en 2012 au Mali, il a fallu qu'on laisse notre maison, vu les dangers que représentait le fait de vivre à Bamako pour une blonde aux yeux bleus, on a fait le choix de laisser notre maison. Avec beaucoup de chagrin en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup ce lieu. Donc on revient s'installer en France et dû à des événements familiaux de ma part, petit à petit, il s'avère pour moi qu'une vie commune, là, en état, n'est plus possible et qu'il vaut mieux qu'on envisage une séparation, un divorce. Chose que Saïdo a essayé de refuser pendant longtemps. Et finalement, on divorce, l'ironie du sort, le 31 décembre 2014.
Oui, là vous divorcez et là c'est la séparation définitive. Enfin, à cette époque, il te dit je ne veux plus jamais de lien.
Plus jamais de contact avec moi. Donc, effectivement, je respecte son choix jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, suite à un appel d'un de ses frères qui me disait: mais j'en ai marre, Saïdou me parle de toi tous les jours. Tu lui manques. Fais quelque chose. Et donc je lui ai envoyé un SMS en disant: oui, si tu veux me donner de tes nouvelles, tu peux m'appeler ou m'envoyer un petit message. Pas de réponse. Bon, je laisse passer le temps. Et un jour, je lui envoie un message, dans la mesure où on avait un petit commerce ensemble pour l'artisanat malien. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un certain artisanat? Et dans la minute qui a suivi, mon téléphone a sonné. Allô? Comment tu vas?
Et c'est reparti. Enfin, c'est reparti. Au début, tu ne sais pas. Vous parlez, du moins. Après 2 ans. Et 2 ans, donc, tu définis comme une grande souffrance. Je crois que tu as dit une image tout à l'heure. Tu te sentais étouffée.
J'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de ne plus pouvoir respirer. Et le fait de l'entendre, ça a été une grande bouffée d'air. Et depuis, je respire. Et j'en ai longuement parlé aussi avec lui. Il s'agit de la même chose. C'était vraiment... Et lorsqu'on a décidé de se retrouver pendant une semaine au Maroc, c'était des grandes retrouvailles, comme si nos corps s'étaient jamais quittés. Je pense que c'est des choses qu'on ne ressent pas souvent dans la vie. Je trouve que c'est une grande, grande chance de vivre ça, de pouvoir se retrouver avec un amour tel.
Oui, malgré les épreuves, malgré les séparations.
Oui. Tout devient possible. C'est malgré les épreuves, malgré les souffrances qu'on s'est infligées mutuellement, tout est possible. Parce que l'amour est là. Cet amour indestructible.
Fort, magique et puissant, et tu décrivais comme vraiment une relation fusionnelle. Est-ce que pour toi, tu es dans l'idée ou le concept de l'âme sœur, ou tu ne le vois pas du tout comme ça?
Je crois que c'est le destin. Je ne sais pas si c'est l'âme sœur, parce que on est dans la complémentarité, dans la fusion. C'est l'amour dans la fusion la plus totale, oui.
Et en même temps, donc là, donc tu as pour projet de le retourner le voir au Mali. Lui, il est venu il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, tu me disais qu'à l'heure actuelle, mais sans se projeter, en fait, en vivant les instants comme ils se présentent, c'est ça?
Se retrouver, être dans les retrouvailles avant de faire des projets, avant de... Voilà, tout ce qu'on sait, le seul projet, c'est on a envie de se retrouver. Et on verra... C'est de savoir qu'on est là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin d'être au même lieu, au même instant, tout le temps. Je pense que c'est la personne au monde avec laquelle la télépathie marche le mieux. Souvent, on n'a pas besoin de s'appeler, c'est juste là. Quand on s'appelle après, on se dit: oui, tiens, à telle heure, j'ai pensé ça. Oui, je sais bien que tu pensais ça à telle heure. Ça a fonctionné même quand on n'était pas ensemble. J'en suis persuadée. Donc, être ensemble, c'est important, mais savoir qu'on est là l'un pour l'autre, c'est au-delà de la présence physique en même temps. Une présence physique qui est nécessaire aussi, mais voilà.
Oui, une présence de cœur, presque, on pourrait dire, d'âme. Et le temps où vous étiez séparés, tu me disais aussi que c'était finalement... très intéressant et bien organisé, la vie, assez magique, que tu te décrivais aussi quand on a discuté, comme une amoureuse de la vie. et que finalement ça t'a permis de faire tout un cheminement intérieur et qui fait aussi le fait d'apprécier, de se retrouver maintenant avec cet homme.
J'ai pu, pendant ces 2 ans et demi de solitude, mais qui dit solitude n'est pas, pour moi la solitude n'est pas quelque chose de négatif. La solitude m'a permis de me centrer, de me centrer aussi sur d'autres, mais d'être à nouveau dans mon équilibre pour pouvoir ouvrir les yeux sur le monde et sur tous les autres, et d'être dans l'amour de l'autre. Ce que j'ai découvert, c'est que dans moi, hein, c'est ma découverte personnelle, je pense que chacun doit le découvrir pour soi, c'est de pouvoir être dans l'amour des gens, dans l'amour de la nature, dans l'amour du monde, hop, et de plus en plus grand. Et plus on est amoureux de la vie, plus la vie nous le rend. Et c'est un amour que moi, j'arrive, chaque fois quand je sens que l'amour me revient, ça me crée un frisson, ça me prend physiquement, ça me donne des larmes aux yeux, parce que je sais que je donne l'amour, tout l'amour dont je suis capable de donner, mais je reçois tellement en échange. Et je pense que c'est le plus beau cadeau de la vie, de pouvoir donner de l'amour et d'en recevoir tout autant, et 1000 fois plus en échange. Et de suivre son cœur, parce que tout au long de ma vie, j'ai suivi mon cœur plutôt que la raison. Parce que des fois, la raison aurait dit « non, faut pas aller par là ». Et le retour est magique aujourd'hui, parce que j'ai vécu mes passions, j'ai vécu ce que j'aime, je peux être dans l'amour, je peux être dans l'amour avec mes enfants, mes petits-enfants. Et de se positionner dans l'amour, c'est juste, c'est magique pour moi. Et c'est toute la magie de la vie.
Oui, tu es pour conclure, tu parlais de la foi en la vie, et que tu décrivais justement avec cette confiance absolue, et de dire quand les choses, laisser faire finalement, puisque les choses sont quand elles doivent être arrivées.
Accepter les choses telles qu'elles arrivent, la vie nous donne les choses comme elles doivent arriver. Des fois on a des épreuves, hein, on grince des dents, et on n'aimerait pas y aller, mais c'est pour se rendre compte que tel que la vie nous les donne, c'est toujours pour notre mieux. Et c'est d'accepter ça, même s'il y a des moments douloureux, c'est tout l'amour que nous donne la vie, quoi. Et tel que c'est bien. Juste, sans aller plus loin, sans aller contre. Et quand je regarde le chemin de ma vie, en ayant suivi ce que la vie me donnait, de me saisir des occasions, des avions qui partent pas et qui vont ailleurs, et que voilà, c'est juste pour nous montrer des chemins inimaginables. Mais c'est la vie, c'est tout ça. Et j'aime la vie, vraiment.
Merci beaucoup, Vip, pour ce très très beau témoignage. Un petit clin d'œil, tu viens d'avoir une petite fille qui aussi a un très joli prénom, qui est magnifique, qui s'appelle...
Elle s'appelle Neha, et Neha veut dire amour en hindi.
Alors voilà, donc un peu cette émission, on peut la dédicacer à Neha, j'ai envie de le faire. Merci beaucoup, Vip, et plein de bonnes choses.
Merci à toi, Isabelle. Thank you.
C'était Parlez-moi d'amour et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour parler d'amour encore et toujours.
dance in old Memphis. The magic spell you cast. This is Love and Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see Love and Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and Rose.